Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre bulle d'oxygène dans laquelle on découvre des Françaises et des Français qui osent et qui font vivre leur entreprise. Une heure pour vous montrer que vous êtes les acteurs de ce changement. La France bouge sur Europe 1. On en parle avec vous, Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel.
Et avec vous, bien sûr, Elisabeth Assayag. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Aujourd'hui, on va découvrir une entreprise française inconnue du grand public et pourtant centrale, hein, au plus fort de la crise sanitaire.
Oui, c'est même un leader mondial. Petit nouveau du CAC 40, cette entreprise s'appelle Eurofins Biomnis. Voilà bien une entreprise qui fait bouger la France. Ils ont pour mission de contribuer à un monde plus sûr et plus sain en fournissant à leurs clients des services d'analyse pointus. Ils sont notamment indispensables en ce moment dans la lutte contre le Covid. L'un de ses patrons est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, en effet, vivre avec le virus, en aérant son logement ou en purifiant l'air dans les endroits où il y a du monde. On va vous présenter cette entreprise nantaise qui croule sous les demandes depuis quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'elle fabrique des purificateurs d'air. On découvre Nathéo Santé d'ici quelques minutes.
Alors, pas de test PCR sans ces petits écouvillons. Si désagréable, faut bien le reconnaître, quand ça gratte le fond du nez, eh bien, sachez que bien souvent, ces écouvillons, ils sont français et ils proviennent de l'entreprise Lemoine, qui est même le numéro 2 mondial en la matière. On n'avait pas de masse, mais on avait des écouvillons et ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge aujourd'hui, une plateforme de prise de rendez-vous avec des patients experts. Les patients experts, ce sont des personnes qui ont été malades et qui ont une expertise sur la maladie que les médecins n'ont pas toujours le vécu. Cette plateforme, c'est Tomo. Le pitch va-t-il vous convaincre? La réponse à 13h45.
Prendre en compte tous les salariés, surtout mettre tout le monde au même niveau. Ça semble être une évidence dans le monde de l'entreprise, mais c'est loin d'être toujours le cas. Chez PayPal, la solution de paiement, on y veille, on a trouvé plein de petites astuces. On leur passera un coup de fil pour tout savoir en fin d'émission.
Allez, bienvenue dans la France bouge, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et oui, aujourd'hui, on va aller dans les coulisses d'un leader mondial français plutôt méconnu, faut bien le reconnaître. Et on parle de tout cela avec notre témoin du jour, jusqu'à 14h.
Bonjour François Cornu.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Eurofins Biomnis. C'est un groupe qui existe depuis 34 ans. 4 associés au démarrage aujourd'hui. Vous êtes plus de 50 000 partout dans le monde. Vous venez de faire votre arrivée dans le CAC 40, c'était en septembre. Alors, il y a une immense partie consacrée à la biologie, mais vous vous développez aussi dans l'agroalimentaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre activité de laboratoire d'analyse médicale. Eurofins Biomnis, c'est une entreprise nantaise. François Cornu, les laboratoires d'analyse médicale ont eu une place centrale, on le sait, au plus fort de la crise. Ils sont devenus essentiels. Comment ça va aujourd'hui ?
Alors, tout d'abord, une petite précision. Eurofins Biomnis est une des 900 entités du groupe Eurofins, qui lui-même, en effet, est cette entreprise multinationale française, dont le siège initial était à Nantes, et qui s'est développée dans différents métiers de la bioanalyse. Eurofins Biomnis est un laboratoire de biologie spécialisé, c'est-à-dire qu'il intervient en deuxième intention pour répondre à des besoins qu'un laboratoire de proximité, celui que vous fréquentez peut-être lorsqu'un médecin vous prescrit des analyses, tout aussi bien nous répondons aux demandes émanant de centres hospitalo-universitaires. Donc nous sommes vraiment centrés sur la biologie spécialisée.
On va en parler, ça tombe bien. Vous avez plus de 800 laboratoires. Vous restez mobilisé en ce moment ?
Bien entendu.
Hein, parce qu'il y a moins de tests, on le sait. Devenus payants, les tests Covid là, sont passés sous la barre des 3 millions. Est-ce que là, on n'est pas à l'abri d'un rebond ?
Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut préciser les choses. Les tests de diagnostic du Covid étaient gratuits en France. Mmh. C'était une décision politique, elle était unique en Europe. Et c'est unique aussi dans le domaine de la biologie médicale, puisque les tests, la plupart des tests que nous réalisons, sont pris en charge par l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, depuis le 15 octobre, les tests de diagnostic du Covid deviennent remboursables dans le cadre des indications qui sont jugés nécessaires. Et si on regarde bien l'évolution, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'ensemble ou la majorité des besoins en tests Covid sont couverts par la prise en charge par l'assurance maladie. Et en fait, il n'y a qu'un très petit nombre de tests.
Il y a uniquement ceux qui ne sont pas vaccinés et qui le font par confort pour pouvoir aller au cinéma, au restaurant, puisque même les non-vaccinés qui ont une prescription médicale, eux peuvent bien évidemment se faire rembourser.
Voilà. Ce matin, on a entendu, je pense, sur les antennes, le substitut à la vaccination que représentait le test effectué par des personnes non vaccinées.
Donc, on n'est pas à l'abri d'une épidémie, d'un rebond, là, c'est ce que vous nous dites.
Alors,
d'après ce que vous voyez dans vos laboratoires.
Les chiffres montrent que...
Ne cassez pas trop le moral. Hein.
Non. Non, le virus continue de circuler et il est toujours intéressant d'aller regarder ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières, chez nos voisins. En Angleterre, vous le savez, il y a un gros dérapage.
50 000 cas par jour.
C'est la cinquième vague. Les Allemands, c'est 19 000 cas par jour. La Belgique, alors, plus petite population, mais on note une accélération. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le virus continue de circuler, mais les mesures barrières doivent permettre de ralentir cette circulation, associée bien entendu à l'efficacité du vaccin, qui lui a deux missions dévolues. La première, éviter une forme grave de la Covid, et deuxièmement, ralentir cette circulation en évitant une propagation trop rapide.
Où vous avez été indispensable, et où vous l'êtes toujours et encore dans cette crise, c'est quand on dit, tiens, moi j'ai le variant Delta, j'ai tel variant, c'est grâce à vous qu'on arrive à savoir et qu'on arrive à avoir ce genre de données. Vous avez aidé à tout cela, en tout cas.
Alors, en effet, nous avons répondu. Il faut savoir que ce que nous avons mis en place, qu'on détaillera peut-être, ça a été à la demande des autorités sanitaires. Et en effet, quand les premiers variants d'intérêt, en tout cas inquiétants, sont apparus, nous avons été le premier laboratoire à proposer un criblage spécifique du variant alpha, qu'on appelait le variant britannique, en janvier.
Comment ça s'est passé dans une entreprise comme la vôtre? Parce que Elisabeth le disait, vous avez plein de métiers, vous disiez vous-même, on est une des 900 entités de Refins scientifiques. Toute l'entreprise, à un moment, s'est mutée, d'une certaine manière, là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu une pression, une force d'entreprise qui est allée sur l'aide et la lutte contre le Covid.
Alors, je dirais même que cette mobilisation, elle s'est faite à l'échelle mondiale. C'est-à-dire l'ensemble du groupe, sous l'impulsion de son président, a initié cette démarche de mobilisation dès avril 2020, quand on a commencé à voir les effets du contingentement quand il ne s'agissait pas de pénurie de réactifs.
Alors, vous, votre particularité, vous l'avez dit, c'est que vous êtes Eurofins Biomnis, donc c'est tout ce qui est biologie médicale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus demandé en ce moment dans les laboratoires? Est-ce qu'on est toujours sur les tests Covid? Est-ce qu'on va sur un petit rythme habituel, des analyses traditionnelles pour voir où on en est? Qu'est-ce qui est le plus demandé?
Alors en fait, depuis juin 2020, en sortie de premier confinement, l'activité a connu un rebond puisqu'il y avait un retard dans la prise en charge des patients qui est resté soutenu, et aujourd'hui on est sur une activité qu'on va qualifier de nominale, c'est-à-dire normale pour la période. C'est-à-dire que l'essentiel de notre activité réside dans les 3000 tests que nous proposons dans notre portefeuille.
On va continuer à parler de tout cela avec vous, François Corniaux. Vous êtes le président d'Eurofins Biomnis. Vous venez de nous le dire. Il y a beaucoup de tests qui sont effectués, mais vous êtes revenu à un rythme plus ou moins normal. On va continuer à en parler avec vous. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Aujourd'hui, on met à l'honneur toutes ces entreprises françaises qui sont actives dans cette lutte contre le Covid. Parmi les leaders en France, il y a Eurofins Biomnis, ce grand réseau de laboratoires filiales d'Eurofins Scientifique, est un de nos leaders mondiaux, on ne le sait pas toujours, mais leader mondial pour tout ce qui peut être l'analyse justement biologique. Tout petit nouveau du CAC 40, et on a voulu aller dans les coulisses aujourd'hui de cette formidable entreprise avec vous, François Cornu, qui est le président d'Eurofins Biomnis.
Alors, pour éviter que le virus circule davantage, il existe des petites machines capables d'assainir et de purifier l'air. Elles sont très utiles, notamment dans les cantines scolaires ou les milieux hospitaliers. Bonjour Thierry Ricci.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes le fondateur de Natéo Santé. Natéo Santé, c'est une entreprise qui existe depuis 12 ans. Vous êtes une entreprise nantaise, décidément. Vous êtes les rois de l'innovation à Nantes, entre vous et Eurofins. Bravo à vous les Nantais. Alors vous, Thierry Ricci, Natéo Santé fabrique vous êtes des spécialistes des purificateurs d'air. Vous existez depuis bien avant la crise sanitaire. Parce que ces purificateurs d'air sont hyper importants pour tous les endroits qui contiennent des polluants d'air. Donc, votre métier, j'ai envie de dire, avant la crise, vous le connaissiez déjà très très bien. Est-ce que vous nous entendez? Parce que vous n'êtes pas en studio avec nous. Hein. Vous êtes.
Tout à fait. Notre métier, on est vraiment spécialisé.
Mm-hmm. Oui. On vous entend.
Moi, je vous entends.
Allez-y, on vous écoute. Thierry Ricci, Natéo Santé.
Ah, ça y est, vous m'entendez. Donc nous, on est concepteurs fabricants de purificateurs d'air. Effectivement, vous avez raison de le préciser. Nous sommes près de Nantes et nos produits sont intégralement fabriqués en France depuis plus de 12 ans. Alors effectivement, nous, le sujet de la qualité de l'air, on le connaît plutôt bien puisqu'on accompagne les professionnels pour répondre aux enjeux de santé, de sécurité, de réglementation autour d'un sujet qui est de la qualité de l'air intérieur. Et on le faisait bien avant l'arrivée du Covid-19.
Et là, vous avez, j'imagine, une demande énorme. Vous arrivez à suivre cette demande?
Il y a un léger décalage, c'est pour ça, pour nos auditeurs.
Depuis mars 2020, depuis mars 2020, nous sommes au contact de cette crise et cette pandémie-là. Nous avons démarré dès le printemps 2020 auprès du personnel des hôpitaux, du personnel médical. L'objectif, c'était vraiment de protéger, de sécuriser l'environnement en chambre de réanimation. Mmh. Et puis, petit à petit, on s'est orienté effectivement vers les collectivités et le tertiaire. On a pu accompagner évidemment de nombreux professionnels pour sécuriser les environnements de travail et protéger récemment les écoles pour cette nouvelle rentrée des classes.
Alors justement, Thierry Ricci, vous venez d'évoquer les écoles. Hein, les écoles, depuis quelques mois, vous croulez sous les demandes. Comment ça se passe, les purificateurs d'air dans les écoles? D'abord, vous les placez où?
Alors on les place essentiellement dans des lieux stratégiques, hein. Là, il va y avoir effectivement beaucoup de passages. Donc, ça va être très souvent le réfectoire, la salle des professeurs. Ça peut être d'autres lieux de passage. L'objectif, évidemment, c'est de maîtriser, en tout cas, de s'assurer que la charge virale n'augmente pas dans ces milieux qui peuvent accueillir énormément de public. Mmh. Et donc, de pouvoir se rassurer tout en enlevant le masque et pouvoir mener des activités prendre une pause comme en temps normal.
Et on est sûr que ça, pardonnez-moi la question, hein, on est sûr que ça fonctionne bien. Quel est le taux de réussite, entre guillemets? En quoi ça nous enlève véritablement un risque d'avoir le Covid?
Alors, chez Natéo Santé, on a une culture scientifique, hein, donc le métier, on le maîtrise plutôt bien. Dès 2020, on a souhaité faire évaluer la performance de nos technologies sur la famille des coronavirus. Donc, on s'est appuyé sur un laboratoire français référent en microbiologie qui a évalué notre performance à 99,6% sur les coronavirus. Mmh.
Donc vous savez que ça fonctionne. Vous avez aussi équipé de nombreux hôpitaux. Chez les particuliers, est-ce que Thierry Ricci, fondateur de Natéo Santé, est-ce que vous constatez une demande aussi? Est-ce qu'on a envie de purifier son air et de lutter contre le coronavirus à l'intérieur même de nos maisons?
Alors nous, notre spécialité, c'est vraiment d'accompagner les professionnels. Par contre, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que les personnes qui sont sensibles, qui sont fragiles ou qui sont très inquiètes à la qualité de l'air vont s'intéresser à ce type de technologie technique et vont nous contacter.
François Cornu, je rappelle que vous êtes le président de Refins Biotnis, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h, hein. Vous faites partie de cette entreprise qui est l'un des leaders mondiaux sur tout ce qui peut être les tests de biologie. On l'entend là avec tout ce qui a été inventé ou accéléré en tout cas lors de cette crise, ça a été vrai également pour vous. Et chez vous, vous avez aussi développé un paquet de programmes pour garantir les environnements, garantir les voyages, garantir des événements plus sûrs pendant cette crise sanitaire. Là aussi, ça vous a permis d'accélérer sur ces solutions plus sécurisantes?
Alors tout à fait, comme je vous le disais, l'ensemble du groupe s'est mobilisé dans toutes les disciplines et à côté du diagnostic biologique, des équipes de l'environnement ont développé les solutions par exemple pour surveiller la présence de SARS-CoV-2, donc du coronavirus dans les eaux usées. Mmh. Mais aussi,
c'est vous qui faites ça?
Oui, tout à fait. Enfin, nous le faisons aux côtés d'un réseau public, et en tout cas, c'est une possibilité qui est offerte. Mais je rebondis sur ce que disait M. Ricci. Mmh. La qualité de l'air, c'est un sujet qui nous intéresse à double titre. Hein. D'abord parce que réalisant des analyses hautement spécialisées en infectieux dans des environnements extrêmement sécurisés, nous utilisons des technologies similaires de filtration d'air, et c'est un sujet qui est important. Et par ailleurs, le groupe, dans sa division environnement, participe à la surveillance et à la qualité de l'air dans un milieu professionnel et industriel en particulier.
Et du coup, ça pourrait se développer là aussi plus largement? Vous pourriez aller sur des solutions plus grand public, sortir de vos labos d'une certaine manière?
Alors, nous travaillons, pas directement nous, mais en appui, sur des solutions qui permettent d'isoler et de caractériser le Covid dans l'air expiré.
Parce qu'on peut aujourd'hui être à peu près certain que demain, on va avoir envie de continuer de sécuriser nos espaces de la part des entreprises. Par exemple, je pense à la SNCF qui dit que ce qu'elle a appris dans le nettoyage de ses trains, ça va perdurer demain. J'imagine qu'il y a un marché qu'on n'évaluait pas avant le Covid qui s'ouvre à des entreprises comme vous dans les années à venir.
Tout à fait. Donc, je vous ai cité les eaux usées, mais il y a aussi l'analyse des surfaces avec la recherche, là encore, du virus, du coronavirus. Mais il faut imaginer quand même que le mode de transmission qui a, évidemment, c'est une transmission directe, interhumaine, hein, par la salive, mais au-delà du contact rapproché, vous avez la création, ce qu'on appelle un aérosol, c'est-à-dire des micro-gouttelettes qui peuvent s'accumuler dans un espace fermé, clos, et qui est chargé de particules virales. Et donc, on comprend tout à fait l'intérêt d'avoir un air renouvelé et purifié pour sécuriser ces environnements, les environnements du travail.
Et c'est donc c'est le cas dans vos laboratoires, j'imagine?
Tout à fait.
Et avec cette crise, est-ce que vous aussi, vous avez revu votre organisation interne, même l'accueil du public? Là, on continue, ça recommence petit à petit, on retrouve des files d'attente. Non, mais c'est vrai, des files d'attente à l'extérieur des laboratoires. Est-ce le cas aussi chez vous pour Eurofins Biomnis?
Alors,
dans l'organisation.
Alors, l'organisation a été profondément modifiée.
Tout a été bousculé, bien sûr.
Et jusqu'à présent, et tant que la crise sanitaire est maintenue, en tout cas l'état d'urgence sanitaire est maintenu, nous avons la possibilité de nous projeter et de nous projeter en dehors de nos sites historiques de laboratoire, y compris avec des équipements mobiles, puisque nous avons pu déployer des bus pour tester les individus. Et éviter en effet ces zones de concentration.
Ces attroupements que nous avons tous pu voir. Merci en tout cas à Thierry Ricci, vous êtes le fondateur de Natéo Santé, hein, qui vous fabriquez des purificateurs d'air, hein, notamment très présents dans les milieux hospitaliers et dans les cantines scolaires. François Cornu, vous êtes le président d'Eurofins Biomnis, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et aujourd'hui, on va dans les coulisses de tous ces acteurs qui nous aident à passer cette crise sanitaire, tous ceux qui se sont réinventés, tous ceux qui ont muté d'une certaine manière leur entreprise pour essayer de participer à ce combat national. Et nous sommes avec peut-être l'un des meilleurs exemples aujourd'hui, hein, Eurofins Biomnis, qui est un groupe avec un paquet de laboratoires qui appartient à Eurofins Scientifiques, qui est le leader mondial de toute l'analyse justement aujourd'hui biologique, mais aussi bien dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur environnemental, dans le secteur également de la cosmétique. Leur métier, c'est simple, hein, c'est de tester les produits pour voir s'ils sont sûrs et s'ils sont bons pour nous. Et du coup, ils ont pu s'adapter facilement à ce qui est en train de se passer autour du coronavirus. Et on en parle avec l'un de ses patrons, François Cornu, qui est le patron d'Eurofins Biomnis.
Et justement, vous parliez, Emmanuel, de toutes ces entreprises, hein, qui ont pivoté pendant la crise. Elles ont su se réinventer. Je vous propose aujourd'hui de découvrir dans la saga du jour, et avec vous aussi, François Cornu, président d'Eurofins Biomnis. Dans cette saga, chaque jour, on découvre une marque ou un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. Pourquoi ? Parce qu'ils traversent des générations. Ils sont toujours là et aujourd'hui, on va découvrir un groupe familial qui a complètement orienté son activité vers les écouvillons, ce que vous adorez, Emmanuel. Hein, vous savez, les petits cotons-tiges.
Je ne sais pas si c'est un seul de nos auditeurs qui aime.
Hein. Que l'on rentre dans le nez pour les fameux tests PCR. Cette entreprise, c'est le groupe Lemoine. Elle a été créée par un couple, Philippe et Jeanne, et c'était en 1978.
Allez, on part tous du coup en Normandie. La petite entreprise familiale est devenue leader sur son marché en Europe, numéro 2 dans le monde. Le groupe Lemoine, c'est la saga du jour avec notre écouvillonneur en chef, Quentin Paillet.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Il y a de fortes chances que vous ayez déjà utilisé un produit du groupe Lemoine sans le savoir. Spécialiste des cotons-tiges et des produits de soins et d'hygiène à base de coton, tout commence en 1978 à Flers, en Normandie. Jeanne Lemoine, cofondatrice et directrice générale du groupe Lemoine.
Mon mari étant d'origine normande, nous sommes restés fidèles à ses racines normandes. Il a été créé en Normandie, dans la petite ville de Flers. C'était un rachat de petite société qui comportait 7 personnes, qui employait 7 personnes et qui réalisait 2,5 millions de francs à l'époque, puisque c'était en 78, de chiffre d'affaires. Nous sommes aujourd'hui toujours une entreprise 100% familiale, avec notre fils qui nous a rejoint en 2006.
Aujourd'hui, l'entreprise est numéro 1 en Europe et numéro 2 mondial, 10 usines sur 5 continents, elle vend dans le monde entier. Le groupe Lemoine est une réussite française qui se fait discrète, mais si on a entendu parler d'elle ces derniers mois, c'est pour un tout autre produit.
Mars 2020, le 25 mars exactement, j'ai été alertée de la pénurie d'écouvillons existantes en France. Or, en voyant ce reportage, je me suis rendu compte qu'un écouvillon ressemblait à ce qu'on pourrait appeler et qu'on appelle aujourd'hui un long coton-tige. Et nous maîtrisons dans nos métiers industriels le savoir-faire de la production de la tige, le savoir-faire de la production de la mèche avec la carverie et l'assemblage avec les machines nécessaires pour assembler tiges et mèches.
L'écouvillon, le fameux grand coton-tige que des professionnels de santé ont enfoncé dans les narines de millions de Français depuis mars 2020, c'est le test PCR pour savoir si on est positif ou non au Covid-19. Fin mars 2020, en 8 jours, le service recherche et développement du groupe Lemoine réfléchit et adapte ses machines de production. Et le 1er avril 2020, le premier écouvillon sort de l'usine.
On a aussitôt présenté au service de santé de la PHP et au service de santé de l'armée de manière à ce qu'il soit fiabilisé par des tests par rapport à un écouvillon référent. Aujourd'hui, on pourrait dire que nos ventes et donc l'utilisation de l'écouvillon Lemoine représentent 20% de l'utilisation des écouvillons pour le dépistage du Covid-19.
C'est le prix du succès. Il est fort probable que pendant un dépistage contre la Covid-19, vous ayez lâché une petite larme à cause d'un écouvillon Lemoine, puisque l'entreprise en a vendu 25 millions depuis un an et demi.
Merci Quentin Paillet. À titre personnel, je trouve ça fascinant, hein, ces entreprises qui se sont comme ça réinventées et qui ont trouvé des marchés. François Cornu, je rappelle que vous êtes le président d'Eurofins Biotnis, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h. Là, on voit comment ils ont muté, on voit comment on a eu des produits à Made in France grâce à ce genre d'entreprise. Est-ce qu'à un moment, au pire moment de la crise, vous vous êtes dit « on va manquer de tout ». On va pas y arriver, on est submergé et on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire les tests, pour faire les analyses derrière.
Alors, à un moment donné, oui, on a manqué. On a manqué de tout, comme tout le monde, on a manqué des masques. Parce que nous n'étions pas, nous, laboratoire de biologie
médicale. Mais ça, c'est médicale, pas votre métier.
Oui, mais nous avions besoin de masques pour faire tourner nos labos. Et donc, nous n'en disposions pas. Et en effet, tout de suite après, la pénurie sur les écouvillons de prélèvement est arrivée et a posé énormément de problèmes.
Et aussi sur les petites solutions dans lesquelles on trempe les réactifs.
Tout à fait, puisque il y a un milieu de transport pour maintenir le virus intact avant analyse.
Donc ça a posé problème. Au fur et à mesure, vous avez réussi à résoudre le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en octobre 2021, ça y est, on peut dire qu'il n'y aura plus de pénurie, puisque la logistique est là?
Alors aujourd'hui,
vous avez l'expérience.
Nous ne manquons pas. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous appuyer sur un groupe mondial, donc avec une possibilité de se fournir sur les différents continents, en particulier l'Asie. Mais on est très heureux de savoir et que des partenaires français peuvent répondre à nos besoins. Et donc aujourd'hui, la situation est maîtrisée tant en fourniture de masques qu'en écouvillons avec les milieux de transport nécessaire.
Dans le monde de la pharmacie, dans lequel vous évoluez, dans le monde de la santé, dans le monde du médical, on dit qu'il va y avoir un avant et un après-crise pour la France. Parce que on avait beaucoup délocalisé. On voyait que, par exemple, on s'est même pu faire du paracétamol en France. On n'avait plus les principes actifs pour pouvoir être totalement indépendant sur le paracétamol. Est-ce que vous avez ce sentiment que cette crise a été un révélateur de se dire il faut qu'on reconquiert notre souveraineté? Et donc demain, on va peut-être réinstaller des usines du futur pour le domaine de la santé dans lequel vous évoluez chez Eurofins.
Alors en effet, ça fait partie des projets du groupe que de se doter des moyens nécessaires à la réalisation des actes qu'il réalise. En matière de bioanalyse, on a besoin de réactifs dont le groupe, sur la partie Covid, a initié le développement. Et ça a été une collaboration, une coopération des scientifiques du groupe à l'échelle mondiale pour disposer de nos propres solutions.
Justement, on va s'intéresser peut-être à vos autres métiers, parce que depuis le début de cette émission, on parle beaucoup du Covid, comme si c'était le métier de Refin scientifique, hein, mais Elisabeth le rappelait au début de l'émission, ça fait plus de 30 ans que vous existez, vous êtes développée sur tout ce qui peut rendre finalement nos produits plus sûrs, parce que c'est vous qui aidez les géants de la cosmétique à bien vérifier que tout va bien dans le produit, qu'on ne va pas avoir une allergie. C'est vous qui testez les produits de l'agroalimentaire aussi pour dire, attention, là, il y a un problème, là, il va y avoir une allergie. C'est ça, finalement, votre vrai métier ?
Alors, le métier, c'est... Enfin, la vocation de Refin, c'est de proposer les analyses qui permettent de contrôler, de tester, d'évaluer toutes les disciplines que vous avez citées. On aurait pu citer aussi l'alimentaire. Hein. Nous avons une formule au sein du groupe. On dit que l'on teste de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire que toute la chaîne alimentaire est
fait. Je crois que c'est même l'origine du groupe, ça a commencé par un brevet dans le domaine du vin, c'est ça au démarrage ?
Voilà, tout à fait. Pour détecter la fraude dans l'élaboration du vin, en 1985, c'est les parents de Gilles Martin, notre PDG, qui ont découvert cette méthode, qui est aujourd'hui la méthode, j'allais dire, gold standard, et qui est toujours utilisée.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler des innovations sur lesquelles vous et vos équipes êtes en train de travailler ? Travailler sur quoi ? Parce que quand on sort d'une crise comme celle-ci, on a forcément des nouvelles idées.
Alors, cette crise nous a appris l'agilité, la capacité à s'adapter à une situation. Covid a évolué par vagues, notre activité a évolué par vagues, ce qui n'est pas simple à gérer, à maîtriser, à contrôler. Mais au-delà de ça, nous sommes un laboratoire qui est dédié à l'innovation et nous allons chercher toujours plus loin les nouveaux besoins et nous tentons d'y répondre. En particulier, notre innovation s'est énormément développée ces 10 dernières années, mais surtout avec une accélération fulgurante ces 2 dernières années vers les méthodes qui permettent de caractériser le génome des individus, les pathologies associées, héréditaires, mais les pathologies acquises, comme le sujet du cancer.
Oui, je lisais une interview de votre big boss hein, ce matin qui disait « Notre thématique, c'est vivre dans un monde plus sain et plus durable et on veut être l'acteur majeur pour réussir ça. » C'est pas mal comme projet d'entreprise, non ?
Testing for life.
Ben voilà, c'était effet. Bien résumé aussi en anglais. Du coup, vous recrutez chez vous parce que quand on a tant de développement et qu'on a tant de métiers qui vont bien, et puis même si je ne sais pas si la formule est belle, mais vous faites partie de ceux qui ont quand même profité de cette crise Covid, les bénéfices ont été multipliés par 3 ou par 4, je crois. Ça recrute ?
Ah, énormément.
Et vous y arrivez à recruter ?
Mais pas simplement. Covid a représenté donc un moment où il a fallu s'adapter, je vous le disais, et donc avoir un recrutement massif. D'autant que les autorités de santé nous ont demandé, nous, Eurofrance Biomnis, de créer une plateforme capable de répondre à une demande très importante. Nous avons développé en région parisienne une plateforme qui peut réaliser 45 000 tests RT-PCR par jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous étions un laboratoire de recours.
Ça.
Et donc, ça a mobilisé au plus fort de la crise jusqu'à 270 nouveaux personnels.
Oui.
Donc le recrutement a été très important.
Mais il a été important pendant la crise, mais là aujourd'hui, vous nous dites que vous recrutez encore ?
Alors, comme je vous disais, nos activités de métier de base ont repris environ en juin 2020. Et comme nous avons beaucoup de développement dans les nouvelles technologies et des nouvelles disciplines innovantes, nous recrutons en permanence, puisque les besoins ne font qu'augmenter.
Quel type de métier ?
Si je vous parle de la biologie du cancer, aujourd'hui, c'est un monde qui est en train de s'ouvrir totalement. La personnalisation du diagnostic de la tumeur d'un individu, la personnalisation de sa thérapeutique, ce qu'on appelle la théranostique, tout cela, aujourd'hui, demande des ressources, des compétences, et nous sommes extrêmement...
Justement, on va en parler demain, puisqu'on sera avec le patron de la Ligue du Cancer au moment d'Octobre Rose. On va faire un point sur toutes les innovations en la matière et comment, là aussi, on peut les soutenir.
François Cornu, vous venez nous parler des compétences. Ben justement, on va vous demander, vous, de donner votre expertise. Hein. On va profiter de votre expertise par rapport à un entrepreneur qui se lance. Vous êtes prêts ? Allez, place au trophée de l'avenir.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Elle bouge, et s'il y a bien un secteur où elle innove, c'est bien ce secteur de la santé. C'est ce que l'on vous montre depuis le début de cette émission, notamment avec François Cornu, le président de Refins Biomnis. On a beaucoup parlé avec lui du Covid. On va continuer à parler santé au moment de ces trophées de l'avenir européen. La France bouge. Vous en avez l'habitude, hein, si vous nous suivez chaque jour, un entrepreneur vient défendre son entreprise. Elle est jeune, souvent. Elle a toujours moins de 3 ans. Et il a, pour ça, il faut convaincre, bien évidemment, le grand témoin du jour. Et puis, aussi, quand même, un petit peu Nathalie Carré, notre spécialiste spécialiste en charge de l'entrepreneuriat, mais elle arrive toujours avec ses merveilleux conseils. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de la convaincre, au final.
Et une fois de plus, un projet d'entreprise dans la France bouge, lancé il y a un an. Bonjour Arthur Maisonnier.
Bonjour.
Vous avez 33 ans, vous êtes le fondateur de Tomo. C'est une plateforme de prise de rendez-vous avec des patients experts. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les patients experts, ce sont des personnes qui ont été malades. Et elles ont une expertise, elles ont un ressenti sur la maladie que les médecins n'ont pas toujours. Hein. Elles sont en quelque sorte complémentaires. Ces patients experts sont reconnus ici en France. Alors, on peut le dire, hein, vous êtes une sorte de Doctolib des patients experts, si on peut le dire comme ça.
Oui.
C'est pour qui ? On va vous laisser nous raconter votre histoire. Tomo, c'est parti pour une minute.
Super. Alors, je vais juste partir un petit peu plus en arrière quand on a commencé. On est parti du constat qu'on avait tous du mal un jour à trouver un bon médecin. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Doctolib, puis on va vérifier sur Google les notes et commentaires du praticien. Pourtant, c'est tout ce qu'elles valent, ces notes et ces commentaires. Et pourtant, on connaît tous quelqu'un dans notre réseau qui a un bon médecin à nous recommander. Donc, Tomo, c'est le premier réseau de recommandation de médecins entre gens de confiance. Donc, une manière pour les patients et praticiens de trouver des praticiens recommandés par leur réseau, sans aller au hasard sur Google ou Doctolib. C'est un service qu'on a lancé il y a environ un an. On a aujourd'hui plus de 10 000 membres. 6 000 médecins sont recommandés par les utilisateurs et on a à peu près 100 000 visites par mois. Toujours dans l'amélioration du parcours de soins, on a lancé il y a un mois maintenant un service qui permet aux patients de prendre des rendez-vous avec des patients experts pour se renseigner sur leur pathologie en complément de l'avis médical. Ça, c'est quelque chose. C'est un service qui a aujourd'hui plus de 40 patients experts qui couvrent 17 pathologies et on a des rendez-vous qui sont pris tous les jours en bénévolat ou alors en payant. Tomo, c'est une jeune start-up. On est 4 plein temps pour le moment.
Voilà,
on a lancé il y a un an, on a fait une petite levée de fonds.
Moi, je dois vous arrêter, je suis désolé, la minute est passée.
D'accord.
C'est moi le bad cop de l'aventure.
Okay.
Bravo en tout cas pour ce pitch, Arthur.
Oui, donc je reprécise, c'est à la fois pour avoir des recommandations de médecins, donc
exactement.
Là, il ne s'agit pas de patients experts, mais il y a une entité au sein de Tomo, avec 42 patients experts pour l'instant,
ouais,
qui peuvent donc donner des conseils, des suivis de maladies, parce qu'eux-mêmes l'ont vécu.
Exactement.
Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth, bonjour Arthur, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous avez étudié, analysé tout ce qui concernait Tomo. Quelles sont les forces et les points améliorés selon vous ?
Alors déjà, après le vide-grenier et l'autostop digital, donc c'est le bouche-à-oreille qui vient de se faire digitaliser, puisqu'en fait c'est ça. Bravo pour les patients aidants. Alors sur votre site, vous dites aidants, là, l'oral, vous avez dit expert.
Ouais.
C'est
vraiment
pas la même chose.
C'est pas la même chose. Expert, c'est...
Expert, non, mais il y a un diplôme reconnu,
voilà,
hein, par l'État, des
exactement,
patients experts. Aidant,
exactement.
C'est aidant.
C'est autre chose, voilà. En tout cas, c'est une bonne idée pour se sentir moins seul. Et puis, alors moi, j'ai testé. J'espère que mon médecin m'a pas reçu de mail, parce que l'ajout de médecin est vraiment très facile. Il suffit de saisir son nom, son prénom et on le retrouve dans la base de données. Alors, quelques suggestions pour améliorer. Bon, d'abord, j'espère que vos patients experts vont se développer et ouvrir vers des groupes de soutien. Et puis, en fait, je me suis posé la question de la SI parce qu'en fait, en fonction d'où on habite et où on habite nos proches, en fait, on va utiliser des praticiens de personnes qu'on ne connaît pas. Donc, comme sur Doctolib ou sur Google. Du coup, je me dis que vous êtes plutôt un peu comme le genre de confiance du médical que le réseau recommandé par des proches. Peut-être que pour qu'il y ait plus cet effet de confiance, vous pourriez être plus sélectif. Par exemple, quand on saisit un praticien, je ne vais pas dire combien de fois on est allé le voir, si toute la famille y va et pour quel motif. En tout cas, des éléments objectifs, donc pas des avis, qui rassurent les personnes qui cherchent un praticien et qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui accéderont à nos recommandations. Et puis, souvent, les praticiens qui sont fortement appréciés croulent sous les rendez-vous. Ils n'ont peut-être pas besoin de vous en plus. Du coup, peut-être que vous pourriez explorer notre piste de rémunération, surtout en métropole. En fait, beaucoup de praticiens débordés ne prennent plus de nouveaux patients.
Ça, c'est clair.
Ça, c'est vrai.
Et ça, c'est un vrai problème.
Notamment les dentistes en région, je peux vous dire, allez-y, trouvez-en.
Et les dermatos.
Exactement, et les dermatos. Donc, est-ce que le fait de venir de la part de Tomo, par exemple, pourrait être une espèce d'option payante,
un
peu passe-droit ?
Le label Tomo.
Une petite label ? Parce que les médecins, nous, on cherche des patients de confiance, mais les médecins, ils cherchent des patients de confiance, des patients qui arrivent à l'heure, qui viennent à leur rendez-vous. Bref, donc, et peut-être qu'il y a cette option-là, en tout cas, creuser le sillon de la confiance dans les deux sens et avec les patients aidants pour prendre votre place dans ce marché médical.
C'est vachement bien. Encore une fois, merci Nathalie pour vos prodigieux conseils.
On en oublie de relancer parce qu'on vous écoute, on attend que ça continue.
Ah, mais vous voulez que je continue ?
Non, mais c'était canon. Non, mais c'est intéressant ce que nous dit Nathalie Carré, Arthur Maisonnier, sur cette histoire de label. C'est-à-dire que le médecin, il recherche aussi des gens de confiance, des patients de confiance.
Oui, exactement. Alors, on avait réfléchi un moment à justement permettre de prioriser certains patients par rapport à d'autres, s'ils étaient recommandés par 5 patients qui étaient actuellement des patients du médecin. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez, les praticiens sont déjà pleins. pour une bonne partie d'entre eux. Donc en fait, ce qui serait plus intéressant, c'est pour ceux qui n'ont pas de patientèle pleine, et donc c'est souvent en général médecine alternative, ou alors des gens qui sont moins reconnus par l'État. Mmh.
Vous le disiez, hein, vous avez je crois 42 patients experts, en tout cas un peu plus d'une quarantaine en ce moment. Ça a vocation à fortement augmenter, vous en cherchez même j'imagine. Là, s'il y a des patients experts qui nous écoutent, ils peuvent venir sur votre site pour apporter plus de complémentarité.
Totalement, totalement. On a la recherche de tous les patients experts, toutes les pathologies, et l'idée c'est que la plateforme devienne la référence en termes de prise en rendez-vous avec des patients experts.
François Cornu, vous êtes notre grand témoin du jour, président d'Eurofins Biomnis. Ça vous validez cette plateforme Tomo qui pourrait être très utile, hein ?
Alors, les patients ont un besoin de prise en charge rapide et une personnalisation de cette prise en charge. Le circuit de la consultation, du fait du nombre de médecins, enfin, toute cette problématique que vous connaissez et que nous connaissons au quotidien, au travers de la crise à nouveau Covid, a ouvert la porte de la communication digitale et l'a renforcée. Et là où des médecins n'avaient pas l'habitude de consulter autrement qu'en face à face, ils ont ouvert en fait les canaux visio et ça a apporté un plus. Et si ça peut réduire tous ces temps morts qui sont ceux de la prise en charge et de la communication aussi entre professionnels de santé, évidemment c'est une initiative extrêmement intéressante.
Arthur Maisonnier, quelle est la demande qui revient le plus fréquemment sur votre plateforme ?
En termes de recherche pour des praticiens ou patients experts ?
Patients experts.
Alors pour l'instant, c'est endométriose qui a le plus de recherches.
Voilà, bah écoutez, en tout cas, on a bien compris. Hein. Tomo, merci à vous Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Hein, et merci à vous Arthur Maisonnier, fondateur de Tomo, cette plateforme de prise de rendez-vous avec des patients aidants, mais aussi des patients experts.
Et Nathalie Carré, on aura comme chaque jour énormément de plaisir à vous retrouver demain autour de cette table de la France Bouche. Si vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise, bah c'est très simple. Hein. Vous nous envoyez un mail à l'adresse e1-lafrancebouge@europe1.fr. Le pire, c'est qu'on vous assure qu'on lit tous vos mails. Même plutôt par là que par LinkedIn ou autre. On adore vous suivre sur LinkedIn, mais c'est plus simple pour nous si vous passez par cette adresse mail et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, la France Bouge.
Suite et fin de votre émission, François Cornu, président d'Eurofins Biomnis, vous reste encore avec nous quelques minutes et on continue.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France Bouge, déjà dernière partie de votre émission, toujours avec François Cornu, le président d'Eurofins Biomnis.
Et sur Europe 1, on écoute le monde changer. Et avec vous, Caroline Tellier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente Europe du Sud PayPal. Vous êtes en direct de New York, là, en ce moment.
Oh, c'est classe.
PayPal, ouais, c'est très chic. PayPal, on connaît tous cette solution qui existe depuis 20 ans, qui permet des paiements sécurisés quand on paye en ligne. Vous êtes présent dans 200 pays. Et vous avez mis en place des communautés, si on peut le dire comme ça, au sein de votre entreprise pour lutter contre la diversité ou pour sensibiliser pour la diversité ou encore le handicap. Tout est ouvert. Comment ça se passe au sein, avec vos équipes?
Oui, c'est vrai. En fait, on a des initiatives qui existent depuis toujours chez PayPal, donc depuis 20 ans, pour promouvoir la diversité. Et en fait, l'arrivée de notre nouveau CEO, il y a maintenant 6 ans, Dan Schulman, a été vraiment une accélération parce qu'on a un patron qui est donc très impliqué sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Il a une citation favorite qui est « La diversité, c'est un fait et l'inclusion, c'est un choix », ce qui force les gens en fait à se mobiliser en fonction de leur propre histoire. Et donc, comme vous le disiez, on a des communautés en interne, quatre communautés ou quatre groupes principaux qui travaillent sur différents sujets. Donc, on a la communauté Unity qui s'intéresse justement à la parité, au développement de la carrière des femmes. On a Opportunity sur tous les sujets de handicap. On a une communauté Pride pour la communauté LGBTQ. Et GIF qui va regarder tout ce qui est association caritative. Donc je pourrais vous donner un peu plus de détails.
Mais bien sûr, peut-être voilà, rien que par exemple pour les femmes, pour arriver à une meilleure égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise. Pour préparer cette interview, vous avez dit à nos équipes, on cherche des rôles modèles qui vont inspirer les hommes, soit des femmes qui ont réussi, soit des hommes modernes. Il en faut ça quand même un peu d'hommes modernes.
Exactement, et en fait, dans le cadre de Unity, on a des femmes et des hommes donc qui sont impliqués et qui vont soit partager leur expérience, soit organiser des formations. Un aspect important aussi pour la parité, c'est de dénoncer les biais inconscients et on en a tous, femmes comme hommes. D'ailleurs, quand on fait parler les employés, on se rend compte que même les femmes parfois ont des biais pour ou contre d'autres femmes. Donc c'est important d'en parler. Et évidemment, donc il faut qu'on ait des hommes parce qu'il faut qu'on montre que une femme, elle peut y arriver si elle est aussi soutenue. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples de couples modernes, de couples à double carrière. Et moi, je trouve que c'est assez aussi puissant quand on voit que les hommes ont envie de s'impliquer dans leurs tâches domestiques et que ce ne soit pas toujours les femmes qui soient stigmatisées étant celles qui doivent partir.
Mais quand vous dites que c'est ouvert, ça ne risque pas de créer des mini-communautés ? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde va, parce que ça l'intéresse, va aller dans le groupe qui concerne l'égalité homme-femme ou qui concerne le handicap ? Ou au contraire, vous faites en sorte de mélanger au sein des salariés ?
En fait, il y a quelque chose qui se passe d'assez naturel. Ça me rappelle un peu le concept d'association dans les écoles où on va aller rejoindre l'association qui
nous intéresse le plus finalement. D'accord. Voilà. Et c'est ouvert et c'est sur la base du volontariat.
Ouais. C'est sur la base du volontariat et parfois on les rejoint parce que on est touché personnellement ou alors parce qu'on apprécie les gens qui ont rejoint l'association ou la communauté et on a envie de travailler ensemble, pas uniquement sur des problématiques business, mais aussi travailler sur ces problématiques qui soient plus sociétales.
Des employés qui se mobilisent pour la diversité et l'inclusion. Merci à vous Caroline Tellier. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente Europe du Sud, PayPal. Merci d'avoir été avec nous dans La France Bouge. Merci à vous, notre grand témoin du jour, François Cornu. Je rappelle que vous êtes le président d'Eurofins Biomnis. Merci à vous.
Et demain, on s'intéressera donc à Octobre Rose, où on en est de la lutte contre le cancer du sein. On sera avec le patron de la Ligue contre le cancer, le tout nouveau patron de la Ligue contre le cancer.
À demain, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.